Bonjour, Nicole Naka au micro. Okapi Action de ce mercredi 26 janvier 2005 vous emmènera à Bukavu où les membres de l'association des fournisseurs et planteurs de quinquina se plaignent de la mesure prise par le ministère du commerce extérieur. Cette mesure, il faut le préciser, interdit l'exportation des plantes et écorces du quinquina par quiconque ne possédant pas une plantation de quinquina de 100 hectares et plus. On en saura un peu plus tout à l'heure sur les implications de cette mesure avec notre consoeur Astrid Mojinga. À Kinshasa, nous sommes à l'heure des bilans et perspectives à la FAO. L'année dernière, la FAO a entrepris de nombreuses actions, notamment en appuyant les agriculteurs dans différentes interventions dans ce secteur. Elle compte cette année entreprendre d'autres actions. Le point avec le représentant de la FAO qui sera notre invité dans cette émission. La situation de l'épargne et du système bancaire à Bounia est presque au degré zéro. Autrement dit, les banques n'existent presque pas. Deux banques ouvriront d'ici là leurs portes si tout va bien. La paix revenue. Y a-t-il espoir de revoir le système bancaire jouer son rôle d'antan? On en saura un peu plus là-dessus dans un instant. Pour m'assister dans cette émission, la réalisation est assurée par Paula Mwankeu, Jean-Claude Ntsela et Jeudi. Kanchama. Alors appelez-nous vite au numéro de téléphone qui n'est autre que le 081 890 68 90 pour participer à cette émission.
5.3 FM. Okapi à Bukavu sur 95.3 FM.
Oui, pour commencer, nous nous rendons à Bukavu, où, je vous le disais en titre, les membres de l'association des fournisseurs et planteurs de quinquina se plaignent de la mesure prise par le ministère du commerce extérieur dans son arrêté ministériel du 1er juin 2004. Cette mesure interdit l'exportation des plantes et écorces de quinquina par quiconque ne possédant pas une plantation de quinquina de 100 hectares et plus. Alors, on va en savoir un peu plus là-dessus tout à l'heure, tout de suite même, avec notre consoeur Astrid Mojinga qui est peut-être déjà en ligne. Bonjour Astrid.
Bonjour Nicole.
Voilà, on le disait, apparemment les planteurs et fournisseurs des écorces de quinquina dans le sud de Kivu sont mécontents.
Ils sont mécontents effectivement Nicole. Ils sont mécontents du fait que l'arrêté ministériel du ministre du Commerce extérieur datant du 1er juin 2004 interdit à toute personne ne les possédant pas une plantation de quinquina de 100 hectares et plus d'exporter les écorces de quinquina. Cette mesure semble donner le monopole à la pharmaquina alors que celle-ci, toujours selon les planteurs, achète les écorces de quinquina qu'on lui amène à crédit et à bas prix. Les autres acheteurs d'écorce de quinquina n'ont pas cette façon-là de plantation. Ce qui fait que ces exportateurs ne peuvent plus acheter les écorces que les petits planteurs leur amènent. Du coup, ces petits planteurs se voient privés de leur marché. Ils ne savent plus dès lors comment faire vivre leur famille, étant donné que la culture de quinquina demeure leur unique activité de survie. Ils déversent alors leur bile sur la pharmaquina qui, selon eux, serait l'instigatrice de cet arrêté ministériel. Ces planteurs ont exprimé leur mécontentement lors de leur assemblée générale intervenue le vendredi dernier. Dans cette assemblée, ils ont pris la décision de cesser toute fourniture de quinquina jusqu'au moment où une solution sera trouvée à leur problème. Je vous propose, Nicole, d'écouter certains d'entre eux.
Bon, l'arrêté du ministre consiste à ce que les petits planteurs qui n'ont pas 100 hectares ne peuvent pas exporter. Or, nous, les petits planteurs forment les gros des exportations aujourd'hui. Les grands planteurs n'ont plus de plantation, ils n'ont plus rien. C'est ainsi que nous voulons à ce que les exportateurs qui n'ont pas de plantation puissent exporter à condition qu'ils puissent payer à l'État congolais son droit. Bon, les petits planteurs continuent de souffrir. Nous n'avons pas de marché. Nous sommes renvoyés à la société Pharmakina, qui n'achète qu'à crédit et qui ne paye qu'après 2 mois et 2 mois. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi l'État congolais ne pense pas à nous. Comment a devenu les mesures pour que le marché soit fait fujo, où il n'y a pas de plus de tout le temps, où il n'y a pas de plus de tout le temps, où il n'y a pas de plus de tout le temps, où il n'y a pas de plus de tout le temps. Ana basi tokea sema basi fanye tena exportasyo. Ndapo wale wana tuma tunaanza pata kidogo kidogo. Sasa kwa ile ya marché na tofanye fujo mwa hii mwingine.
Astrid, pour plus de précision, pourriez-vous nous dire exactement ce que le dernier intervenant vient nous dire en Swahili?
Eh oui, Nicole, le responsable de la Pharmakina se sont en effet prononcés là-dessus. Pour M. Kafoua, directeur des ressources humaines et administrateur à la Pharmakina, on ne peut pas apprendre au ministre à faire ce qu'il a à faire. On peut aussi le suivre.
Je trouve ça comme étant une insulte à l'égard du ministre. Et il n'appartient pas à la Pharmakina d'apprendre au ministre son travail. Le ministre sait ce qu'il fait. Ce n'est pas la Pharmakina qui a instigé ça. Ça n'engage que celui qui a dit, mais c'est vraiment insultant.
Oui, là, c'était le point de vue d'un responsable de la Pharmakina. Mais on aimerait savoir, Astrid, les responsables de la Pharmakina ne sont le fait, donc ils se sont prononcés là-dessus, mais tout compte fait, la Pharmakina garde quand même le monopole maintenant qu'il est interdit aux autres exportateurs qui n'ont pas de plantation d'exporter.
Et c'est ce que la Pharmakina n'accepte pas, Nicole. Ses responsables déclarent n'avoir pas influencé de près ou de loin la décision du ministre du Commerce extérieur qui, selon eux, a la liberté de prendre des mesures qui jugent nécessaires pour protéger cette culture qui constitue l'une des richesses de ce pays. Nous pouvons à ce propos écouter encore M. Mudwanga, qui est agronome de la Pharmakina et qui a participé à l'Assemblée générale de l'Association des fournisseurs et planteurs de quinquina.
D'ores déjà, j'ai dit que cette affirmation était gratuite dans la mesure où la Pharmakina n'a rien à voir aux mesures que le gouvernement peut prendre pour tel ou tel besoin de la nation. Ça, c'est d'abord un. Que de deux, il y a plusieurs acheteurs qui passent partout dans tous les coins de la province du Sud Kivu et du Nord Kivu et qui achètent sans que la Pharmakina puisse contraindre tel ou tel de ne pas lui vendre. Donc, cette affirmation de monopole, je ne vois pas comment elle se justifie, dans la mesure où ils ont cité même plusieurs acheteurs qui ont acheté. Est-ce que monopole signifie qu'il doit y avoir 3 ou 4 ou plus de 5 acheteurs que j'ai failli comprendre qui n'ont pas pu payer leur redevance? Comme vous l'avez constaté avec moi dans la salle, il y avait de vrais planteurs et il y avait de faux planteurs. Je parle de vrais planteurs, c'est-à-dire ceux qui possèdent effectivement leur plantation. Et parmi eux, nombreux parmi ceux qui étaient dans la salle fournissent chez nous. Ils peuvent être témoins, je pense, des services que nous leur rendons. Bon, ceux qui sont de faux planteurs, que je vais appeler faux planteurs, c'est ceux-là qui, en réalité, ne possèdent de plantation que dans leur imagination. Ils étaient aussi dans la salle. Ceux-là, s'ils ne nous vendent pas le quinquennat, ils sont libres. Nous n'avons jamais contraint quelqu'un à venir livrer chez nous. Nous achetons, nous offrons le service, le prix que nous offrons à celui qui veut l'acheter. Et encore qu'il faut prouver si ceux-là, ils payent plus que nous. Ça, je crois que des exemples à l'appui, on peut le vérifier. Les accusations qui doivent provenir peut-être d'une catégorie, s'il y a une ou deux personnes qui ne vendent pas chez nous, c'est leur liberté de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec notre marché. Nous ne l'avons jamais refusé. D'abord, nous n'exportons pas les écorces de quinquina. Nous transformons les écorces de quinquina. Avec ça, nous avons quand même une certaine responsabilité vis-à-vis du social, vis-à-vis même du côté financier que nous supportons au niveau de la province et au niveau de la République démocratique du Congo. J'irai même plus loin, nous n'exportons pas parce que nous transformons les écorces en quinine qui sont vendues et qui sont visibles sur le marché. Est-ce que nous ne pouvons plus défendre notre quinine? Mais dire que nous avons influencé le ministère, moi je voudrais savoir qui peut nous prouver que nous l'avons influencé. Et chaque gouvernement de ce monde est libre de prendre les mesures et qu'on nous accuse de ça, moi je pense que ça c'est un faux problème. Le problème est ailleurs.
Oui, là c'était M. Mudwanga qui est agronome de la Pharmakina et qui défendait en fait l'entreprise. Mais tout à l'heure, Astrid, nous avons suivi que malgré tout ça, les planteurs dans leurs propos accusent quand même la Pharmakina d'être à la base de la décision du ministre. Alors on aimerait savoir, vous qui êtes sur place, vous n'avez pas une idée de ce qui est peut-être à la base de cette mesure, Astrid?
Je crois, Nicole, que seul le ministre du Commerce extérieur peut répondre à cette question. Toutefois, selon certaines sources que nous avons ici sur place, cette décision est pour protéger, comme on l'a déjà souligné un peu plus haut, la valeur du quinquina. Laissez-moi vous dire, Nicole, à ce niveau que le quinquennat qui produit la quinine et tous ses dérivés n'est cultivé qu'en République démocratique du Congo, en Indonésie et dans quelques rares pays d'Amérique du Sud. Son écorce ne peut être récoltée que 8 années après sa culture. Or, il y a de ces planteurs, toujours selon ses sources, qui récoltent ces écorces 4 ans seulement après la culture. Ces écorces sont donc immatures et n'ont pas la teneur voulue, ce qui peut provoquer leur dépréciation et également la chute des prix sur le marché international des quinquennats. Alors, je voulais dire, ça peut provoquer une chute sur le marché international du quinquennat du Congo par rapport à celui qui est produit en Indochine et dans d'autres pays, parce qu'en fait, en Indochine, l'État indochinois surveille de près sa culture. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Nicole, le ministre du Commerce extérieur peut seul nous donner d'amples explications sur la portée de cette mesure.
Merci beaucoup Astrid Mojinga. On en saura un peu plus avec notre invité qui est justement un délégué du ministère du Commerce extérieur. Allez, portez-vous bien là-bas, Bukavu. Au revoir.
Merci Nicole, au revoir.
Voilà, je remercie tous ceux qui viennent de nous rejoindre en ce moment et je rappelle aux auditeurs que pour l'instant nous sommes en train d'évoquer la question concernant la mesure prise par le ministère du Commerce extérieur qui interdit justement l'exportation des plantes et écorces du quinquennat par quiconque ne possédant pas une plantation de quinquennat de 100 hectares et plus. Alors pour en savoir un peu plus là-dessus, nous recevons pas dans ce studio mais plutôt par téléphone notre invité qui n'était que M. Willy Bombito, il est directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
En tout cas, tout le plaisir est pour nous que vous ayez accepté de répondre à nos questions. Alors la première question que nous vous posons est celle de savoir justement comment vous réagissez face, à ce mécontentement justement des membres de l'association des fournisseurs et planteurs de quinquennat.
Merci madame. Rassurez-vous que ce plaisir-là est partagé. Je voulais simplement dire que la mesure qui a été prise était d'abord une mesure conservatoire, parce que vous savez qu'en tant que gouvernement, nous avons le devoir de protéger un industrie local et l'obligation morale de protéger la vie de nos concitoyens. Vous savez que l'usine Pharmaquina a comme matière première les plantes de quinquina. Et donc, je voudrais aussi apporter une précision sur le fait que la mesure qui a été prise, non seulement que les conservatoires, mais ne concernait que les jeunes plantes de quinquina. Parce que tous ces exportateurs heureux là, évidemment dans le but de se faire des marges bénéficiaires importantes, oublie une chose, c'est que l'usine quinquina n'a pas matière première que les plantes de quinquina, comme je disais, et en plus, c'est l'industrie locale que nous avons le devoir de protéger, sinon c'est des milliers de Congolais qui seront mis, en chômage. Et ils font des bénéfices, c'est bien, c'est pour eux, leur famille et tout, mais il faut penser aussi aux autres. Et alors, les jeunes, nous disons bien, les jeunes plantes de quinquina, si on exporte les plantes qui sont déjà aguerries, parce que l'usine Pharmaquina utilise les écorces, donc des quinquina. Et vous savez que la quinine de Pharmaquina, c'est la meilleure, je dirais même la meilleure thérapie contre le paludisme. Et dans notre pays, le paludisme tue plus que le sida. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Et donc nous avons, nous, gouvernement, ce devoir de protéger l'industrie locale.
Oui, on veut bien. On rappelle à tous les auditeurs qui veulent participer à cette émission qu'ils peuvent nous appeler au numéro 081 890 68 90. Et je vous demanderai plutôt de vous éloigner aussi de votre poste récepteur, M. Willy Bombito. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît, parce qu'il y a un retour.
Oui, je suis très loin du poste récepteur.
Vous éteignez ça carrément, éteignez ça carrément.
Oui.
Voilà. Mais une précision tout de même, parce que vous savez que les planteurs, eux, réagissent et disent que cette mesure n'a pour d'autre objet que de donner le monopole à la Pharmaquina.
Non, nous, on ne donne pas le monopole à la Pharmaquina. Nous avons, nous, comme je dis, le devoir de protéger l'industrie locale. Et la Pharmaquina, ce que je sais, c'est une industrie qui est implantée dans les territoires de la République démocratique du Congo. Je dis bien que c'est une mesure conservatoire. Et en plus, je dis, il ne faut pas qu'on exporte les jeunes. Et ces exportateurs véreux exportent les jeunes plantes, madame. Et vous vous rendez compte que cela pourrait faire disparaître cette culture donc, de notre pays. Nous sommes le seul pays qui produit le quinquina. et en exportant les jeunes plantes, mais un jour cette culture risque de disparaître. Et donc comme ça, on va fermer l'usine et Pharmakina avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Vous vous rendez un peu compte, madame?
Oui, mais j'imagine que la plupart des planteurs là-bas à Bukavu n'ont pas, je pense, ils n'exportent pas 100 hectares et plus. C'est surtout la Pharmakina qui a cet avantage là, je pense.
Non, bon, nous ne pouvons pas, comment dire, interdire la concurrence. Exporter, d'accord, mais en respectant les normes. Il ne faut pas exporter en désordre. C'est comme s'il n'y avait pas, des règles établies, c'est comme si on était dans une jungle. Nous avons voulu simplement réglementer les choses. Nous avons bien précisé dans l'arrêté qu'il s'agit des jeunes plantes de quinquina. Okay? Parce que ces jeunes plantes-là sont exportées pour aller être cultivées ailleurs.
Mais vous avez aussi précisé dans l'arrêté qu'on ne peut exporter, on ne peut posséder que des plantations de quinquina de 100 hectares et plus. Or, je pense que la plupart des planteurs n'ont pas, je dirais, cette chance d'avoir 100 hectares. Alors, vous ne pensez pas que vous limitez leur chance?
Non, nous sommes tout à fait disposés à discuter avec ces planteurs-là et nous sommes ouverts, en tout cas, à toute forme de discussion parce que, bon, ces planteurs-là, ils sont aussi congolais, hein, donc nous ne voulons pas les pénaliser, nous ne voulons pas donner aussi un avantage à Pharmakina, mais je vous ai expliqué les raisons qui ont milité, en tout cas, à la prise de cette mesure, qui je dis bien conservatoire. C'est-à-dire que la porte n'est pas fermée, elle est ouverte, donc nous sommes disposés à engager des discussions avec ces planteurs-là pour voir comment on pourrait trouver un modus vivendi qui arrange tout le monde.
Oui, et que dites-vous, M. Willy Bombito, de l'accusation faite par les fournisseurs et planteurs selon le fait que Pharmakina achète à crédit et à bas prix les écorces de quinquina qu'on lui apporte? Est-ce vrai?
Non, ça n'engage que leurs auteurs. Je voudrais simplement que ces débats-là s'engagent entre Pharmakina et ces planteurs-là. Nous sommes le gouvernement et nous ne tenons pas compte de tout ces commérages.
Merci beaucoup, M. Willy Bombito. Donc, vous dites que les planteurs et fournisseurs peuvent vous contacter directement pour discuter sur cette mesure?
Tout à fait, madame. Nous sommes ouverts à toute forme de discussion.
Vous pouvez même leur donner votre numéro de téléphone?
Je vous en prie, vous l'avez, vous pouvez le diffuser sur antenne et nous sommes tout à fait disposés.
Le 081 057 73 65?
Exactement, madame.
Merci beaucoup, M. Willy Bombito, et bonne journée. Et
je vous souhaite une bonne journée, madame. Au revoir.
Je rappelle aux auditeurs que nous avons tout à l'heure abordé la question concernant la mesure prise par le ministère du Commerce extérieur dans son arrêté ministériel du 1er juin 2004. Cette mesure interdit l'exportation des plantes et écorces de quinquina par quiconque ne possédant pas une plantation de quinquina de 100 hectares et plus. Nous avons reçu à cette occasion M. Willy Bombito, qui est justement le directeur du cabinet du ministre du Commerce extérieur. Vous avez bien suivi l'entretien et à ce sujet justement, il y a un auditeur qui a réagi, il s'appelle Jean-Claude Moussonga, il appelle de Kinshasa et lui encourage justement que l'on puisse arrêter l'exportation du quinquina. Il faut donc absolument prendre des mesures nécessaires. Alors dans ce sujet, nous nous trouvons avec le représentant de la FAO, avec lui, on va faire le bilan et on va aussi voir un tout petit peu ce que la FAO a comme perspective pour l'année 2005. A tout de suite.
Okapi, le Congo à l'écoute.
Monsieur Ad Spalker, vous êtes représentant de la FAO ici en République démocratique du Congo. Bonjour.
Merci, c'est toujours un plaisir d'être au studio de Radio Okapi. Une radio qui a, je pense, un rôle très important, surtout à 2005, où il y a beaucoup de choses à faire au Congo.
Tout le plaisir est pour nous également. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes avec votre assistant, qui n'est autre que M. Vango Loutete. M. Vango, bonjour.
Et bonjour madame, merci.
Voilà. Alors avec vous, on va plutôt parler de ce que la FAO a comme, je dirais, perspective pour cette année 2005. Nous savons que l'année dernière, la FAO a entrepris de nombreuses actions, notamment en appuyant les agriculteurs dans différentes interventions dans ce secteur. Alors, qu'est-ce que vous avez comme perspective pour cette année 2005? Ma question, je pense qu'elle s'adresse aux représentants directement.
Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut bien connaître que la République démocratique du Congo se trouve à l'accroissement des chemins. Il y a des choses importantes à faire dans le pays. Et dans notre secteur, il faut aussi savoir que la situation de sécurité alimentaire est très grave. Nous avons un taux de 73% de la population, c'est-à-dire 42 millions de personnes qui sont dans cette situation. C'est un niveau de malnutrition qui est parmi la plus élevée du monde. Et je pense que c'est une grande défi pour nous de travailler avec des familles qui sont dans une situation grave, surtout à l'Est, de donner une assistance directe. Mais aussi voir avec les politiciens, les ministères concernés, les ministères du plan, quelle manière il faut mobiliser le support international pour supporter le secteur agricole. C'est un de nos perspectives les plus importantes pour 2005. Deux aspects importants pour nous, l'agriculture et forêt, qui est aussi une chose importante pour le pays.
Justement, vous parlez de l'agriculteur, de l'agriculture plutôt. Les auditeurs qui nous suivent ont parfois du mal à comprendre, je dirais, les interventions de la FAO. Et je rappelle à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en appelant au numéro 081-890-68-90. Alors, Monsieur Spiker, je pense qu'il est quand même important de savoir qu'est-ce que la FAO a fait concrètement dans le domaine agricole ici en République démocratique du Congo.
Alors, depuis 4-5 ans, nous avons un programme d'urgence qui a, je pense, grosso modo, par an, touché 400 000 familles avec de bonnes semences maraîchères, vivrières, des outils agricoles, aussi des matériels de pêche. Nous avons travaillé main à main avec MONUC, avec quelques ambassades pour l'ouverture du fleuve Congo. Nous avons aussi marqué la BAC avec un petit apport technique pour les gens qui vivent autour d'un fleuve. On peut tout de suite avoir un impact pour leur vie quotidienne. C'est un aspect qui était supporté par pas mal de bailleurs de fonds. Nous avons fait chaque année un appel consolidé qui demande aux bailleurs de nous assister pour acheter des intrants agricoles.
Oui, alors vos interventions, parce qu'il faut être un peu plus précis, vos interventions concernaient plus les habitants de quelle ville?
Non, c'est un peu dans toute la province, mais il faut savoir qu'il faut une structure de partenariat avec des ONG nationaux, internationaux. Mais grosso modo, nous avons pour le volet d'urgence, je dis, et pas pour le volet réhabilitation, mais pour le volet urgence, nous avons des bureaux à Goma, à Bukavu, à Bunia, à Kisangani, à Beni. Aussi à Oriental, nous avons à Bujimai, à Katanga, à Lumumbashi et Équateur à Bandaka. C'est-à-dire, la FAO a partout un peu des antennes, mais pas toutes seules, souvent aussi avec des autres agences des Nations Unies, comme le PAM, nous avons une coopération étroitement avec eux, ou avec vous-même, MONUC, qui est aussi un volet important pour nous.
Alors pour le paysan ou l'agriculteur qui nous suit, je donne un exemple, hein, par exemple à Kalemi ou pourquoi pas à Kisangani ou encore à Beni, qu'est-ce qu'il peut attendre de vous pour cette année 2005?
On a déjà dans ces deux endroits, Kalemi et Kisangani, nous avons vu qu'il y a un problème très grave avec le manioc et je suis convaincu que nous avons distribué dans ces deux endroits des boutures de manioc qui sont bonnes pour aider les paysans pour avoir une récolte.
Et pour les autres, notamment à Lubumbashi ou pourquoi pas à Bunia?
Lubumbashi et Bunia aussi, mais ça dépend un peu de la situation, du contexte de ces deux provinces. Mais grosso modo, nous avons là-bas aussi le même type des intrants, vivrières, maraîchères et matériel de pêche.
Oui, on a remarqué une chose, c'est que la FAO insiste beaucoup sur le manioc. Et pourtant, nous savons que la République démocratique du Congo est très riche. Alors, ne comptez-vous pas également étendre vos actions sur d'autres plantes, sur d'autres produits agricoles ici en République démocratique du Congo? Monsieur Loutété?
Oui, certainement, madame. Il faut absolument que le pays puisse diversifier sa production, diversifier la production agricole. Et si on s'est attaqué au manioc, parce que d'abord c'est la culture de base du pays, c'est au moins la nourriture de base pour 70% de la population, et donc comme cette culture connaissait des sérieux problèmes depuis une vingtaine d'années pratiquement, puisque la culture n'était plus assez encadrée, et donc la culture était fortement attaquée par des maladies, en particulier la mosaïque, la situation était telle qu'il y avait même la famine dans certains coins, parce que les maniocs ne produisaient plus. Et donc la FAO, le représentant en tête, a pu mettre en place un groupe de réflexion pour la relance de cette culture. Et des bailleurs de fonds également ont adhéré à ces programmes. Et actuellement avec l'IITA, l'Institut international d'agriculture tropicale qui est basé à Ibadan au Nigeria, avec ces sites, la FAO et des bailleurs de fonds comme USAID, la Commission européenne, la Belgique, eh bien, on a pu attaquer le problème Et actuellement, la FAO en particulier a plusieurs milliers, a environ 2000 hectares des champs de multiplication des boutus sains de manioc.
Où c'est?
Nous en avons dans plusieurs provinces maintenant, le De Kivu, le De Kasaï, le Katanga aussi en partie, le Bas-Congo et Kinshasa au plateau de Bateke.
Mais la maman qui nous suit à la maison, par exemple, elle aura vraiment du mal à croire ce que vous dites, qu'il y avait ce que vous avez appelé mosaïque, qui attaquait des boutures de manioc, parce que nous savons que, notamment ici à Kinshasa, la plupart des mamans cultivent facilement ce qu'on appelle communément en lingala le pondu. Et il n'y a pas de problème. Alors, on a du mal à croire que réellement, il y a eu des problèmes au niveau de la culture du manioc.
Eh bien, lié à ce travail-là, justement, on est en train de renforcer également les capacités des mamans à reconnaître la maladie et à pouvoir gérer cette maladie elle-même. Nous avons ce qu'on appelle l'approche champ école paysanne qui est en vigueur maintenant. Si vous allez au plateau Bateke, vous allez rencontrer des mamans qu'on peut appeler même des mamans agronomes, qui n'ont jamais été à l'école, mais qui connaissent la maladie.
Mais est-ce que la mosaïque, en fait, empêche les Congolais de consommer le manioc?
Justement, la mosaïque empêche même la production de boutures de manioc. Lorsque la plante est très attaquée, il n'y a même pas de bouturage, donc il n'y a pas de boutures de manioc, il n'y a pas de manioc quoi.
Alors ne comptez-vous pas, puisque je dirais que l'essentiel a été fait en ce qui concerne le manioc pour cette année 2005, ne comptez-vous pas étendre vos actions peut-être pour le maïs, l'arachide, qui sont en fait d'autres produits agricoles également riches ici en République démocratique du Congo?
Oui, certainement, on a fait beaucoup pour le manioc, mais pas assez encore. Il faut encore beaucoup. Nous allons poursuivre les travaux sur le manioc.
Toujours sur le manioc.
Certainement que nous devons également diversifier.
Oui.
Si vous avez bien suivi, l'année 2004 était notamment l'année internationale du riz. Et la FAO a été leader pour la célébration de cette année-là. Nous sommes en train de mettre l'accent sur la production du riz, qui est un aliment très important, qui sert également des revenus aux paysans. Si vous avez visité les poules Malébo, vous verrez des mamans qui ont les revenus et qui savent nourrir leur famille grâce au riz. Et il y a d'autres cultures très importantes, comme le maïs que vous avez cité.
Oui, vous avez cité le riz. Justement, à ce sujet, nous savons que en RDC, on consomme beaucoup le riz. Et nous savons qu'il y a le riz de Bumba, qui malheureusement n'arrive pas dans certaines villes de la RDC, tout simplement parce que les routes sont en mauvais état, alors que ce riz continue à être produit et cultivé à Bumba même. Alors, est-ce que vous n'avez pas également peut-être des actions, qui sait, peut-être à réhabiliter certaines routes de façon à permettre aux populations d'exporter, si je puis le dire, le riz facilement partout en RDC?
Oui, ce problème-là est général pour toutes les cultures. Et vous avez raison, il faut un gros programme de réhabilitation des routes de cette agricole. Et le gouvernement a un gros programme dans ce sens.
Et la FAO?
La FAO également participe à ces programmes. Il y a des bailleurs de fonds qui ont financé à travers la FAO la réhabilitation des routes de cette agricole. On en a fait au Bas-Congo. Nous en avons fait également au Bandundu, vers Kikwit. Nous en avons fait dans la province orientale et dans les deux Kivu.
Ah oui, mais pas encore au niveau de Bumba.
Au niveau de Bumba, nous avons assisté plutôt une autre agence qui est le FIDA, qui vient de formuler un programme de réhabilitation de l'agriculture pour l'Équateur, et c'est à Bumba en particulier. Et les routes, c'est une composante du programme.
Merci beaucoup d'être branché sur Radio Capi et de nous suivre à travers l'émission Okapi Action. Alors je rappelle à tous les auditeurs que maintenant nous sommes en train de nous entretenir avec M. Vangolou Tété, qui est l'assistant du représentant, et lui-même le représentant est là avec nous, M. Ad Spiker, le représentant de la FAO. Alors si vous avez des questions à poser pour réagir sur nos différents sujets, vous pouvez toujours appeler au numéro 081 890 68 90. Voilà. Alors, je reviens à vous, vous qui êtes nos invités. Tout à l'heure, je vous posais la question de savoir comment vous comptez intervenir pour ce qui est de l'exploitation de riz, parce que vous savez que Bumba, c'est une, je dirais que c'est une grande ville qui, dans le temps, a énormément produit le riz. Tous les Congolais ne consommaient que le riz de Bumba. Alors, aujourd'hui, où la plupart des Congolais, je dirais, consomment à volonté le riz exporté, donc le riz venu d'ailleurs, le riz importé, qu'est-ce que vous, vous comptez faire concrètement pour, je dirais, révaloriser la culture du riz, notamment le riz de Bumba?
C'est un constat très important pour nous. Le riz, c'est vrai, c'est une nourriture de base, peut-être le troisième, après le manioc, la banane, le riz. Et comme Vango a bien dit, il faut faire plus de choses encore. Il faut savoir aussi qu'il y a de nouvelles variétés de riz qui est venu du Japon, c'est le Nirika. Et nous voulons aussi travailler avec des instituts compétents pour introduire cette variété ici en Afrique. Il faut savoir aussi le transport, c'est très important. J'ai toujours dit la piste la plus importante pour transporter le riz d'Équateur d'Oriental, c'est le fleuve Congo. Là-bas aussi, il faut des efforts. Mais tout ça, madame, commence avec une vision politique du gouvernement. Il faut des investissements. Nous sommes convaincus qu'il faut stopper de grands essayants d'importer le riz, les légumes ou même les haricots. Ce n'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de possibilités pour augmenter la production. Et c'est l'économie. Le mot-clé pour le Congo, je pense, c'est l'économie.
Oui, c'est vrai qu'il y a le gouvernement, mais la FAO ne compte pas peut-être, je dirais, soutenir le gouvernement dans ses actions en lui donnant peut-être, en lui prêtant main forte.
Oui, nous travaillons déjà avec la FAO parce que dans ces domaines, parce qu'on vous le savez, nous sommes en train de mettre en œuvre le programme spécial de sécurité alimentaire. Et dans la première composante de ces programmes, c'est la composante maîtrise de l'eau pour la production agricole et principalement pour la riziculture et le maraîchage. Et nous avons deux sites pilotes à Twenge au Poul Malebo et également à Loma en Banzangungu où nous faisons des aménagements hydro-agricoles où les paysans vont avoir des casiers riziculaires où ils peuvent maîtriser l'eau, gérer l'eau comme il faut pour produire 2-3 fois par an les riz.
Alors je vous pose une question, vous êtes libre de répondre, monsieur Spiker ou peut-être monsieur l'UTT, c'est madame Ilunga qui nous appelle de Guadeloupe et qui pose la question de savoir qu'est-ce que la FAO réserve pour le Nord Équateur en 2005 car depuis qu'ils ont apporté des boutures saines de manière qu'en 2003 on ne les a jamais plus revues.
Oui, c'est vrai que, m'excuse, mais il faut savoir aussi, le pays est tellement grand, il y a tellement de besoins, mais nous avons un correspondant efficace à Bandaka. Nous avons bien noté cette question, je ne peux pas promettre, mais je vais revoir cette question tout de suite avec notre coordination d'urgence. C'est une province qui a besoin d'assistance, c'est clair, j'ai vu moi-même la situation autour de Guémena il y a quelques années, nous avons vu Bamanda, il y a des perspectives importantes, mais il a besoin d'un apport. Encore une fois, excusez-nous, nous voulons bien, mais nous ne pouvons pas être partout, mais la volonté est là.
La volonté est là. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous comptez aussi intervenir, vous intervenez d'ailleurs déjà, pour ce qui est de la forêt ici en RDC, qu'est-ce que vous faites exactement?
Bon, pour la forêt, le point essentiel, c'est que, comme vous le savez, la forêt pour le pays ici, c'est une ressource très importante. C'est plus de 50% du territoire national, c'est de la forêt. Et plus de 47% des forêts denses de l'Afrique se trouvent ici au Congo, dans notre pays. Et donc, si cette ressource est bien gérée, elle peut générer des ressources pour le développement économique et pour également, pour ce qui est de la FAO, ce qui est important, la sécurité alimentaire des populations.
Soyez un peu plus précis, donc, comment la forêt
maintenant,
peut...
la première chose pour bien gérer la forêt, c'est évidemment les mesures institutionnelles. Et dans ces domaines précis, la FAO a assisté le gouvernement pour actualiser, élaborer un nouveau code forestier qui a été promulgué par les chefs d'État en août 2002. Et ces codes forestiers, actuellement, sont en train de travailler avec le gouvernement pour l'élaboration des mesures d'application du nouveau code forestier. Et ça, c'est très, très important. C'est l'outil de gestion. Il y a des innovations là-dedans parce que c'est fait de façon participative. Il y a les populations qui vont également participer à la gestion forestière et qui vont également avoir des retombées de l'utilisation des ressources forestières.
Comment les populations peuvent justement participer à cela?
Ben, notamment, je vous dis, dans le nouveau code forestier, il est prévu une nouvelle catégorie de forêts qu'on appelle les forêts communautaires. Les forêts que les communautés locales peuvent gérer elles-mêmes.
Comment?
Pour leurs bénéfices. Ben, il y a un renforcement des capacités qui vont se faire. Donc, on va également renforcer les capacités des communautés locales à gérer les forêts, c'est-à-dire utiliser les ressources telles que, de façon durable, hein, ne pas détruire la ressource, mais tirer profit des bénéfices de la ressource. Et également, lorsqu'il y a un exploitant, il y a une conseil forestier qui est tout près, du fait qu'on exploite les ressources forestières, 40% des revenus de ces exploitations forestières vont retourner aux communautés locales.
On a l'impression que cela se fait déjà parce que nous savons que aujourd'hui dans le pays, la forêt est, je dirais, grandement exploitée.
Non, madame, si je peux vous dire, on parle beaucoup de nourriture, mais il faut toujours préparer la nourriture. Qu'est-ce qu'on a besoin de bois de feu? Si vous voyez voir autour de Lumumba, si vous voyez la réalité là-bas, c'est absolument nécessaire pour le Congo qu'on va bien penser. Et c'est grâce aussi aux efforts de nos collègues Vangu qu'il y a maintenant un projet très important ici au plateau Batik qui fournit la ville de Kinshasa avec la bois de feu. Et c'est, je pense, le charcoal, on dit en anglais. C'est très, très important aussi que nous sommes conscients. Si on ne fait pas ça, on va couper partout. Et et la population n'a pas besoin, n'a pas suffisamment de moyens pour préparer leur riz, leur manioc et toutes les autres choses. On a besoin des énergies.
Alors, votre défi pour cette année 2005, monsieur le représentant?
Dans ce sens, je peux dire que pour la question forêt, c'est vrai, il y a dans plusieurs niveaux, il y a des consultations. Nous avons vu que la bassine de Congo, la plupart des forêts, c'est ici chez nous. Je trouve que c'est extrêmement important que la politique de concession des gouvernants était bien établie, que nous avons des contrats de concessionnaires comme il faut, avec une fiscalité comme il faut, que le revenu des forêts congolais vient pour le développement du pays. C'est un de notre défi, il faut continuer avec ça.
Et pour toutes les mamans paysannes qui nous suivent, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre pour cette année 2005 de la FAO, monsieur le représentant?
De notre côté, je peux dire que avec le support des bailleurs de fonds, nous voulons continuer avec mettre à la disposition des plus vulnérables des outils agricoles, de bonnes semences vivrières, de bonnes boutures de manioc, mais encore une fois, les besoins sont énormes et nous sommes seulement dans la possibilité qui sont aussi limitées. Mais il y a quelque chose qui est montré, ça va, il faut continuer avec ça.
Les populations cibles pour cette année, lesquelles?
Tout d'abord, je pense eux qui sortent de guerre, qui ont besoin, c'est tout à fait normal avec une guerre que la population veut peu à peu élever leur niveau de vie. Et encore une fois, c'est pas à Kinshasa, il y a peut-être beaucoup de forêts ici, mais la grande population vit dans les provinces. 70% madame est dans le secteur agricole. Et nous avons toujours dit, la main d'œuvre est là, et si on a des moyens de produire, il faut aller en avant. Non, ça ne vient pas seulement de nous. Et la coopération internationale, ça vient de deux côtés, aussi le côté congolais. Mais nous avons vu que dans pas mal de provinces, la volonté est là. Mais une chose qui manque souvent, ce sont des investissements. Et nous avons vu avec le groupe consultatif, quand les bailleurs sont venus ici en novembre, on a mis un plan aussi pour 2005-2006. Alors, il ne faut pas croiser les mains, il faut travailler.
Puisqu'il ne faut pas croiser les mains, les populations cibles, autrement dit, qui sortent de guerre, cette année peuvent attendre de la FAO des boutures saines, des intrants.
Des intrants et même des noyaux d'élevage pour les petits élevages, comme on fait à Lubumbashi, dans le Kassai aussi. Donc, également matériel de pêche. Il y a aussi le renforcement des capacités au niveau institutionnel. La FAO est en train de compléter une assistance au gouvernement pour restructurer les ministères de l'agriculture, pour qu'il devienne plus efficace pour assumer son rôle en termes d'encadrement du secteur agricole. Il y a également les routes qu'il faudra nécessairement attaquer et poursuivre le travail qu'on a commencé.
Oui, en compte, on va vous suivre en fait dans vos actions. J'imagine qu'à propos des boutures saines, des intrants et tout ce qui concerne en fait le secteur agricole, cela sera distribué gratuitement aux populations.
Ça dépend des programmes parce que également la distribution gratuite n'est pas nécessairement la bonne voie. Pour les populations qui sortent de la guerre, prenons ceux qui sont complètement démunis. Maintenant, on peut dire les zones proches de l'ancienne ligne de front, des gens qui sortent à peine de la forêt parce qu'à peine la paix commence à entrer là-bas. Là, on fait des discussions gratuites, ça c'est un programme d'urgence. Mais dans les programmes de développement de réhabilitation, on met en place des mécanismes pour permettre aux populations d'accéder aux intrants agricoles, notamment par les microcrédits, la microfinance. C'est très important, il faut que les paysans soient en mesure d'acheter.
Lui-même. Et ça pourra démarrer quand ces microcrédits?
Nous avons, oui, ça, j'ai pas dit un drop, mais Fangou, c'est très important de dire aussi un mot sur l'horticulture. Mm-hmm. Nous sommes commencés à Lumumbashi, à Kinshasa, avec le support de la Belgique, pour promouvoir la ceinture verte. Il y a beaucoup de mamans qui sont impliquées, avec une assistance, tout d'abord avec...
La ceinture verte, c'est le programme?
C'est pour l'horticulture, c'est-à-dire c'est la maraîchère, c'est pour le HUP, l'horticulture urbaine, périurbaine.
Okay.
Et nous sommes maintenant dans la situation que aussi les autres centres comme Kisangani et les autres provinces ont profité de ce programme. Et c'est une aide directe grâce à un support fort de la Belgique. Nous avons la compétence, nous avons la structure et là-bas aussi le microcrédit part de cette approche.
Oui, on a une question qui vient à peine de nous tomber. Merci beaucoup, Jody Kachama. Elle nous vient de José Ekwa et lui nous a appelé de Kananga. Il dit ceci, avant de prendre cette mesure d'interdire l'exploitation des plantes et écorces de quinquina, il fallait, au niveau du ministère du Commerce extérieur, contacter d'abord les intéressés plutôt que de prendre d'abord la mesure pour contacter ensuite les intéressés. C'est pas une question qui s'adresse à vous, c'est plutôt à notre invité que nous avons reçu tout à l'heure. Je pense qu'il nous a suivi et qu'il va nous répondre bientôt. Alors, je reviens à vous pour terminer, monsieur Loutété. Tout à l'heure, vous nous parliez d'un système que vous allez mettre en place d'ici là. du système microcrédit pour faciliter un peu la tâche aux planteurs. Alors comment comptez-vous vous y prendre concrètement et puis ça va se faire quand exactement?
C'est déjà en cours. C'est déjà en cours depuis 2004. Depuis 2003, nous avons des programmes qui mettent en place les microfinances, donc les microcrédits, le microcrédit en milieu rural, notamment avec les institutions de microfinance. On travaille également avec la Banque centrale pour renforcer les capacités des institutions de microfinance et on met en place des lignes de crédit pour les paysans qui participent au programme.
Pour les mamans qui ne sont pas au courant de ce projet.
C'est à travers les associations. Donc, en fait, pour permettre à des paysans d'accéder à ces genres de mécanismes, il faut qu'ils soient en association. Il faut qu'ils soient organisés en structure qui peut négocier, si vous voulez.
Et c'est seulement ainsi qu'ils pourront bénéficier de ces microcrédits.
Pardon ?
C'est seulement ainsi qu'ils pourront bénéficier de ces microcrédits. Hein?
Mais à travers
les associations. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, monsieur Aït Spiker, vous qui êtes le représentant de la FAO, ainsi que vous, monsieur Vangou, l'UTT, assistant au représentant. Merci beaucoup et au revoir.
Merci beaucoup.
Nous, on poursuit ici toujours avec différents sujets, différents thèmes. Après le secteur agricole, nous allons entrer dans l'économie, où la situation de l'épargne et du système bancaire à Bounia est presque au degré zéro. Autrement dit, les banques n'existent presque pas. Deux banques ouvriront d'ici là peut-être leurs portes si tout va bien, car la paix est revenue. Y a-t-il espoir de revoir le système bancaire jouer son rôle d'antan? On en saura un peu plus là-dessus dans un instant avec notre confrère Michel Chirimami. Alors je vous rappelle, chers auditeurs, vous qui souhaitez nous appeler, appelez-nous donc au numéro 081-890-6890.
Okapi.
Radio Okapi à Bounia sur 104.9 FM.
Voilà, j'espère que notre confrère Michel Chirimami est déjà en ligne. Michel Chirimami, vous qui êtes à Bounia, et je pense que vous vous êtes bien penché sur la question du système bancaire et de l'épargne. Quelle est la problématique suscitée par les activités en ce domaine après la période de grande crise sécuritaire, Michel? Bonjour.
Bonjour Nicole. En effet, à l'instar des activités économiques en Ituri, le système bancaire est encore très marqué par la guerre. Lorsqu'on fait le tour de la question, on se rend compte que la reprise des activités est timide et le niveau d'avant-guerre est loin d'être atteint.
Alors, quelle est la situation actuelle après le tour fait par auprès des institutions bancaires de l'Ituri, surtout dans la ville de Bounia?
Nicole, la Banque centrale du Congo, succursale de Bounia, reprend peu à peu ses prérogatives de représentante du trésor public, où les services générateurs sont appelés à verser les taxes et les impôts. Pour sa part, la seule banque commerciale qui ouvre actuellement à Bounia, c'est l'Union des banques congolaises, UBC en sigle. Celle-ci se limite aux activités presque élémentaires des transferts d'argent dans le cadre du Western Union. Donatien Vaweka ou Mirambe, gérant de l'Union des banques congolaises succursale de Bounia, pense que cette activité est là juste pour désenclaver les milieux en ce moment. Écoutons-les qui résument les activités actuelles de la banque.
Pour le moment, c'est vraiment embryonnaire parce que dans un contexte où l'insécurité continue à régner, nous, en étant que banque, nous ne pouvons pas amener tout. Donc, le financement, des crédits à la clientèle, ainsi. Bref, donc, entreprendre toutes nos opérations classiques, pour le moment, ce serait difficile. Donc, il faudrait attendre que la paix revienne et pour que les choses redémarrent normalement. Bon, dire qu'il n'y a pas tellement de dépôts, ce serait un peu utopique parce que les banques travaillent sur base de dépôts des clients. Sauf que les dépôts reçus actuellement chez nous nous semblent être très moindres et vraiment insignifiants, et surtout qu'il n'y a pas d'épargne, disons, et vraiment c'est difficile pour le moment de parler de cette épargne-là.
Là, Michel, c'était le point de vue de M. Donatien Vaweka, qui est gérant de l'UBC Bounia. Mais nous aimerions savoir, quelle est la situation du côté de la Caisse d'épargne, la Caisse générale d'épargne du Congo, autrement dit la CADECO, là-bas à Bounia?
Oui, Nicole, la CADECO, à la CADECO, la situation est également stationnaire. Nous avons rencontré le chef d'agence de Bounia, qui est revenu de Béni où il avait fui les événements de mai 2003. Pour lui, il est hors de question de parler d'épargne en ce moment et au sens propre du terme, même si sa grande préoccupation actuelle réside dans la sensibilisation des anciens membres de la CADECO. Écoutez M. Gambali Gabriel, chef d'agence de la CADECO Bounia, évoquer l'épargne.
L'épargne normalement devait être définie comme revenu moins dépenses. Mais dans le contexte actuel, cette définition n'a pas raison d'être. Donc l'épargne en soi, d'une façon scientifique, l'épargne c'est une décision qu'on peut prendre pour mettre quelque chose de côté en fait de s'en servir dans le jour à venir. C'est ainsi que bon, quand on a quelque chose là, c'est de volonté là, cette décision là. Vous prenez un petit lien, vous avez 20 dollars, prenez un fisc à 500 dollars, venez déposer à la CADECO. Petit à petit, ça peut constituer un gros capital qui peut vous servir dans les jours à venir.
Oui, là, c'était le point de vue de Gambali Gabriel, chef d'agence de la CADECO. Mais Michel, on a du mal à croire que, il y a de cela peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans même, Bounia était une ville économiquement riche. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu le rôle que les institutions bancaires et d'épargne jouaient avant les événements dans une région jadis prospère économiquement?
Oui, Nicole, de l'avis de tous nos interlocuteurs sur place à Bounia, la banque reste un facteur de relance économique et même d'équilibre. Le gérant de l'Union des banques congolaises, que vous avez écouté tout de suite, de Bounia, nous rappelle les performances que l'on pouvait atteindre avant la crise de l'Ituri. Écoutez-les.
Dans les temps, on faisait beaucoup de rachats, de chèques en devises, de tous ces gens-là qui avaient des comptes au niveau de l'étranger pouvaient être réglés, pouvaient avoir de l'argent ici sur place à Bounia sans moindre frais. Et puis à part ça, il y avait distribution des crédits. La banque a pu donner beaucoup de crédits pour achat de véhicules, comme les gens connaissent ici dans le milieu. C'est après la guerre de l'AFDEL, c'était pour renforcer un peu le tissu économique du milieu. Il fallait intervenir dans tous les secteurs, et le secteur transport, qui, il y avait des crédits achat véhicules, il y avait dans le secteur vivrier, on pouvait donner des crédits vivriers dans le secteur import-export. Nous intervenions pour payer les frais de douane, nous intervenions aussi pour accorder des crédits à l'importation, donc pour nos commerçants qui étaient clients ici, pour bénéficier mensuellement des crédits qu'on appelait crédit OBC.
Et qu'est-ce que la CADECO donne comme image de Bounia d'antan, Michel Chirimami?
Oui, la CADECO, pour sa part, se réjouit d'un passé qui fait encore rêver le chef d'agence à un lendemain meilleur. Écoutez-les évoquer l'époque.
Oui, mais dans le temps, quand la CADECO travaille normalement, la CADECO accordait quand même des crédits à la clientèle. Bon, déjà, qui était vraiment client à la CADECO avait eu des crédits, beaucoup de gens avaient eu des crédits à ce moment-là. Un client qui vient demander un crédit, il a quand même un objectif à atteindre. Alors, ça fait toujours partie de l'économie. Bon, il a ses activités à lui. Alors, il vient demander un crédit, la CADECO, lui, accorde ses crédits à un taux vraiment dérisoire. Vous savez, avant, je dis bien avant, la CADECO, à l'époque, finançait même certains projets d'intérêt général pour la population. Si la situation s'est décantée, à mon avis, d'abord, comme je vous l'ai dit au départ, je continue avec sensibilisation. Et puis, à un moment opportun, je serai obligé de convoquer d'abord mes anciens clients pour une prise de contact. Comme ça, on va essayer de parler. Je peux encore l'expliquer pourquoi épargner, comment épargner, comme par le passé.
On se rend compte que dans le passé, les banques, les caisses d'épargne fonctionnaient à merveille. Mais Michel Chirimami, que dire enfin de la situation ainsi décrite à Bounia?
Alors, nous n'avons pas pu contacter la banque centrale, la représentation ici. On s'est excusé de ce côté-là. Mais il faudrait peut-être noter que la CADECO Bounia compte à ce jour deux bureaux, ou ce qu'on appelle les OBET, à l'intérieur du district. Il y a un bureau de Mahagi et celui d'Aru, mais selon le chef d'agence, l'agence a perdu tout contact avec ses représentations depuis 2002. Pour le reste, toute l'activité productive et économique, Nicole, dépend du retour au calme et à la paix, pour reprendre normalement à Bunia et à Ituri en général. Et donc, la banque devrait aussi avoir un grand défi à lever pour souscrire à sa mission dans le retour à la vie normale économique.
Merci beaucoup, Michel Tchirimami, pour cette carte postale de la vie économique à Bunia et surtout de ses banques. Allez, portez-vous bien là-bas et bonne journée.
Bonne journée, Nicole. Au revoir, aimable auditeur de Radio Capi.
Voilà, voilà une chanson qui vous a certainement fait plaisir partout où vous nous suivez en République démocratique du Congo. Voilà. Et je rappelle aux auditeurs que ceux qui veulent participer à cette émission peuvent toujours nous joindre au numéro 081 890 68 90 ou encore nous appeler, nous écrire carrément à l'adresse email qui n'est autre que action@radiocapi.net. Ils peuvent aussi nous envoyer des SMS à travers notre adresse email. Je rappelle le sujet que nous sommes en train d'évoquer en ce moment, c'est la situation de l'épargne et du système bancaire à Bunia qui est presque au degré zéro, si pas enveilleuse. Et actuellement à Bunia, deux banques ouvrent leurs portes, notamment la Banque Centrale et l'Union des Banques Congolaises, UBC en sigle. Une agence de la CADECO, la Caisse d'épargne du Congo, ouvre également ses portes à Bunia, mais dans des conditions plutôt difficiles, car littéralement pillées lors des événements de mai 2003. Mais comme la paix est en train d'être, on parle du retour de la paix, y a-t-il espoir de revoir le système bancaire jouer son rôle d'antan? On avait beaucoup, je dirais, des précisions là-dessus tout à l'heure avec notre confrère Michel Tchirimami qui est sur place à Bunia et qui nous a fait un peu le topo de la situation bancaire à Bunia. On en saura un peu plus tout à l'heure avec notre invité et je remercie du fait tous ceux qui continuent à nous appeler et tous ceux qui continuent à nous écrire, notamment monsieur Jibgo Kweg, il nous a écrit par notre adresse email action@radiocapi.net, mais lui ne réagit pas sur le sujet bancaire, mais plutôt il pose une question, il dit ceci: ça fait déjà 2 ans environ depuis que le Fonds social de la RDC s'est engagé de nous payer la bourse d'études. Jusque-là, rien n'est fait. Que nos dirigeants cessent de promettre les choses qu'ils ne seront jamais capables de réaliser, nous attendons d'eux rien que la vérité. C'est de la part de Jepko, qui est étudiant, un groupe d'étudiants boursiers de Goma. Et il termine en disant, cette démagogie finira un jour. Merci beaucoup, monsieur Jepko Gweg, de réagir, de nous écrire à notre adresse action@radiocapi.net. Continue à réagir, continue à appeler au numéro 081 890 68 90. Merci. Allez, dernière étape de cette croisade avec vous, chers auditeurs. Nous allons à Butembo, où on parle déjà de la reconstruction de la ville avec l'appui, tenez-vous bien, des opérateurs économiques de cette ville. Parce que vous savez, quelques opérateurs économiques de la ville de Butembo ont décidé d'appuyer la mairie de cette ville pour les travaux de reconstruction. Malheureusement, certains projets battent de l'aile, faute de fonds. On en saura un peu plus avec Étienne Moindo, qui, je l'espère, est déjà en ligne. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour Nicole.
Alors, nous avons appris que les commerçants de la ville de Butembo se sont engagés d'aider la mairie à construire cette ville. Mais cette deuxième ville du Nord Kivu sur le plan économique, dites-nous Étienne, à quoi consiste exactement cette contribution des opérateurs économiques?
Oui Nicole, bien, cette contribution des commerçants de leur financier mais aussi matériel. Et donc, les commerçants cotisent et remettent leur quote-part à la mairie et la mairie se charge alors de la construction.
À quand date exactement l'intervention des hommes d'affaires dans la construction de la ville de Butembo, Étienne?
Il faut souligner d'abord que c'est depuis longtemps, mais surtout c'est à partir de l'année 2003 avec l'arrivée du maire actuel, Julien Palou-Kaongia. Il faut donc cela date de mars 2003. Donc, et à partir donc de cette date, oui, les commerçants se sont mobilisés. Oui.
Donc ça fait déjà 2 ans. Parle-nous un peu de leur réalisation jusque-là à Butembo.
Oui, les réalisations, je peux les citer pêle-mêle. Il y a par exemple l'aménagement des potoirs publics, l'aménagement des principales artères avec les concours de la Monique, pas seulement des commerçants, le reboisement et rétablissement des espaces verts, l'achèvement de la construction du parking de la Victoire, la construction du pont Kijeki qui relie la commune Boulengera au centre-ville, la construction de deux ronds-points, la réorganisation, plutôt la prospection des terrains omnisports, la construction de l'hôtel des villes qui est considéré ici comme le premier en fait en province du Nord Kivu, mais il y a aussi les signalisations routières qu'il faut aussi souligner.
Mais Étienne Moïndo, nous avons appris que certains projets battent de l'aile faute de fonds. Qu'en est-il exactement?
Oui, c'est vrai, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai ici, soulignons au passage justement l'intervention par exemple de la Monique avec les kits, oui, projet de... oui. Donc à travers la Monique par exemple est intervenue pour aménager certaines artères principales et même secondaires. Ici nous pouvons parler de l'artère de Kambali et puis l'autre qui mène à l'aérodrome de Rwenda. Et donc là, ce sont des contributions aussi de la Monique, pour montrer que en fait, les commerçants sont aussi essoufflés. Hein, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités.
Oui, ça fait déjà 2 ans qu'ils assistent eux-mêmes la mairie. Mais qu'est-ce qui a motivé, Étienne Moïndo, cette action des opérateurs économiques de Butembo?
Ah, il faut souligner que bon, il y a eu les maires à la faire quand même un mot d'ordre pour dire qu'il faudrait que la population se prenne en charge, il ne faut pas tout attendre de l'État. Et donc, avec le principe, toi et les siens t'aidera, et toi et l'État t'aidera. Et donc, cela a fait une impulsion qui a poussé les commerçants à pouvoir aider, pas seulement les commerçants, mais aussi les ONG. On peut citer ici le KIB, qui est le consortium de l'agriculture urbaine, la ville de Butembo, qui a contribué par exemple à aménager les dépotoirs publics et tant d'autres aussi.
Donc on imagine qu'il y avait certainement des cotisations, parce que bon, pour que des opérateurs économiques s'organisent, certainement qu'il y a un nombre bien précis avec des cotisations à mettre en place en fait.
Ah oui, mais bon, en fait, tout le monde ne cotise pas. C'est ici que, par exemple, le maire, pour l'exercice 2004, il l'a dit, il a pu seulement recouvrer 60% des recettes dues, et donc 40% restent encore à recouvrer. C'est quand même énorme.
Et pouvons-nous avoir une idée sur cette cotisation des opérateurs économiques, si ce n'est pas trop vous demander?
Un pas trop, mais comme le maire est là, lui-même pourra donner un peu, il pourra donner des éclaircissements là-dessus. C'est lui qui est mieux placé pour donner d'amples renseignements.
Merci Étienne. Mais une dernière question tout de même. Jusque-là, le résultat de cet appui des opérateurs économiques est tout de même, je dirais, on remarque cela dans la ville de Butembo?
Oui, bon, je vous ai cité ici 10 grands travaux à faire, mais il faut d'abord souligner que ces travaux sont déjà au niveau des finissages, donc c'est vraiment énorme, mais il faudrait, tout cela demande de l'argent, c'est pourquoi les maires de la ville lancent en fait un appel aussi au gouvernement, aux hommes de bonne volonté, pourquoi pas aux opérateurs économiques d'autres provinces, parce que le Butembo, ça fait quand même partie du Congo, c'est pas seulement le Nord Kivu, mais c'est une partie de la République démocratique du Congo.
Et c'est pas seulement ça, c'est aussi une très belle ville de ce pays, hein, n'est-ce pas?
Ah, c'est ça, vous le soulignez bien.
Merci beaucoup, Étienne Moïndo. Allez, on vous retrouvera prochainement, mais on va donner la parole à l'invité, ça sera tout à l'heure. Allez, on revient dans ce studio avec vous pour poursuivre le sujet sur lequel nous étions en train de nous étendre. Et aujourd'hui, on a abordé en quatrième place le sujet concernant en fait l'encadrement ou peut-être la prise en charge des commerçants de la ville de Butembo. En effet, les commerçants se sont engagés à aider la mairie à construire Butembo, qui est en fait la deuxième ville du Nord Kivu sur le plan économique. Alors en ce moment, nous sommes en ligne avec Monsieur Julien Paluku, qui est en fait le maire de la ville de Butembo. Bonjour Monsieur Julien Paluku.
Bonjour Nicole.
Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Capi Action. Alors la première question que nous vous posons, Monsieur le maire, est celle de savoir quelle est en fait la part de la mairie dans l'accomplissement de ces travaux.
Merci beaucoup. Comme vous le savez, la mairie de Butembo s'est investie d'abord à mobiliser la population de sa juridiction et à travers les opérateurs économiques qui ont accepté l'appel de l'autorité locale de manière à ce que nous puissions ensemble amorcer les travaux de la construction de l'hôtel des villes de Butembo. C'est une initiative qui avait commencé il y a 2 ans à l'époque du RCD-KML, lorsque l'actuel ministre de la coopération régionale, M. Mboussa Nyamwisi, avait encore en charge cette partie. Et c'est justement à la suite de cette initiative que, lorsque nous avons été placés à la tête de la mairie, nous avons dû continuer avec les travaux qui avaient été amorcés. Et aujourd'hui, toutes les délégations qui passent par Butembo sont surprises de constater effectivement qu'il y a, du travail qui est en train de se faire ici.
Mais nous avons appris, monsieur le maire, et d'ailleurs notre confrère Étienne Mourindo nous l'a confirmé, il y a certains projets qui battent de l'aile faute de fonds. Donc ça ne se passe pas exactement comme peut-être que vous l'auriez souhaité.
Non, les travaux se déroulent normalement. Vous savez qu'en matière de projets, il y a des projets qui se réalisent en une année, il y a des projets qui se réalisent en deux ans, en trois ans, en quatre ans. Alors, selon la planification qu'on s'est faite au niveau de Butembo, l'hôtel de ville de Butembo devra être achevé à la fin de cette année 2005. Et nous estimons que vers septembre-décembre 2005, l'inauguration devra intervenir. Mais il n'y a pas que le projet de la Conseil de l'Hôtel des Villes qui intéresse les opérateurs. Il y a aussi un grand projet dans la ville, celui de l'électrification. Les opérateurs avaient créé ici une société qu'ils avaient appelée Senoki, Société d'électrification du Nord Kivu. C'est aussi un autre projet qui est déjà en chantier, dans un partenariat avec certains opérateurs de l'Afrique du Sud. Et nous estimons également qu'au courant de cette année, il y aura une avancée significative. Comme pour vous dire qu'il y a une dynamique locale au niveau de la ville de Butembo, grâce à laquelle la ville est en train de prendre la forme.
Mais on aimerait savoir, monsieur le maire, combien d'opérateurs économiques ont-ils accepté de redorer en fait le blason de la ville de Butembo?
Nous avions mis sur place un système... comme vous le savez, Butembo, c'est un grand centre économique où il y a des importations à partir des pays voisins. Et nous avions estimé que s'il fallait passer porte à porte, ce serait un peu difficile de découvrir l'argent. Alors, on a convaincu les opérateurs économiques à pouvoir accepter une additionnelle sur le paiement de la taxe au niveau de la douane. C'est ainsi que, à la suite de cette additionnelle qui a été ajoutée, il y a un système de perception qui fait que on perçoit immédiatement sur les conteneurs qui entrent par la frontière de Kasindi. C'est cette stratégie-là qui nous permet effectivement d'avoir une enveloppe qui nous permet de pouvoir réaliser l'ensemble des projets que nous sommes assignés dans la ville de Butembo.
Oui, mais c'est à combien? Ça s'évalue à peu près à combien? Pour combien d'opérateurs économiques?
Bon, à Butembo, il y a des catégories d'opérateurs. Il y a des grands opérateurs, il y a des moyens, il y a ceux-là que nous estimons être en dessous de la moyenne. Alors, ce sont les grands opérateurs et les moyens qui importent, qui sont estimés environ à une bonne centaine. Qui sont concernés par cette opération.
Monsieur le maire, pouvons-nous savoir exactement combien aujourd'hui la mairie, grâce à l'assistance des opérateurs économiques, a pu rassembler comme fonds pour la construction de la ville de Butembo?
Oui, nous n'avons pas de fonds qui sont logés dans une banque quelconque, parce que lorsque les fonds sont récoltés, elles sont immédiatement dépensées à la suite des travaux qui sont entrepris. Ici, je vais citer par exemple pour l'hôtel de ville, depuis plus de deux ans, on a déjà réussi à percevoir autour de 150 000 dollars. Ce n'est pas de l'argent qui est bloqué en banque, mais c'est de l'argent qui, une fois perçu, est directement dépensé. Et cet effort vient s'ajouter effectivement au budget qui est celui de la mairie, parce que comme vous le savez, nous sommes une entité décentralisée. Il y a des crédits qui nous sont alloués. Par exemple, pour l'exercice 2004, nous avons eu un crédit de 146 441 dollars, mais que nous n'avons pas réussi à recouvrer. Nous n'avons réussi à recouvrer que 87 000 dollars, soit à peu près 60% de notre budget que nous étions assignés pour l'année 2004. Donc, à côté de ce budget, il y a cet ensemble de perceptions que nous avons de la part des opérateurs économiques. Les tout mis ensemble nous permet de réaliser cet ensemble de projets que nous avons dans la ville de Butembo. Si je vais citer par exemple, d'ici deux semaines, nous allons devoir inaugurer un grand pont que nous avons intitulé Pont Kijeki, qui va vers l'évêché de Butembo, qui dessert plus de 40 000 hommes et qui réunit une des communes qui s'appelle Boulengera au centre-ville.
Est-ce que cette action des opérateurs économiques, c'est vrai, c'est les acteurs économiques de Butembo, va s'étendre également dans d'autres villes aux alentours de Butembo?
J'ai pas bien suivi. Vous dites que...
Ma question est précise, monsieur le maire. J'aimerais savoir si cette action des opérateurs, surtout de la ville de Butembo, va également s'étendre dans d'autres villes aux alentours de Butembo.
Oui, effectivement, Butembo constitue presque le centre. Butembo a des effets d'entraînement sur les restes, comme la ville de Beni, le territoire de Lubéo, parce que la ville de Butembo est située presque à égale distance entre le chef-lieu du territoire de Lubéo, qui est à 45 km, et le chef-lieu de la ville de Beni, qui est à 50 km. Donc tout ce qui se fait dans la ville de Butembo a des effets d'entraînement. Dans toute la région, parce que comme vous le savez, avec tous ces efforts là, les opérateurs économiques locales se mettent également à entretenir les routes qui relient les différents milieux que nous avons cités. Ça veut dire qu'il se développe une sorte de partenariat entre Butembo et tous les environs, de manière à ce que tout le monde ressent l'importance de Butembo dans la région.
Monsieur le maire Julien Paluku, c'est vrai qu'il ne faut pas tout attendre de l'État congolais, mais tout de même, quelle est la part de l'État dans la reconstruction de la ville de Butembo?
Bon, effectivement, dans une conférence que j'ai tenue le 31 décembre 2004, j'ai situé le niveau de l'intervention du pouvoir public et le niveau d'intervention de l'autorité locale. C'est comme par exemple, la ville de Butembo est une entité qui a une difficulté d'approvisionnement en eau potable. Il y a des installations de la régie des eaux, mais qui ne sont pas tellement appuyées. C'est ainsi que nous avons estimé que parmi les projets que nous attendons du gouvernement central, il y a celui de la redynamisation des activités de la régie des eaux en fournissant une eau de qualité dans la ville et en élargissant les réseaux de distribution. Mais il y a également, au niveau de Butembo, ce que nous attendons du pouvoir central, la construction d'un grand marché, parce que nous avions des contacts avec l'autorité hiérarchique. On nous a rassuré que la présidence de la République, à travers les fonds sociaux, va devoir financer un marché central ici à Butembo. Nous attendons que cela soit effectivement fait. Mais également, Butembo, c'est une ville qui a vraiment de l'avenir, mais jusqu'à présent, elle apparaît sale parce qu'il n'y a pas de macadam. Nous attendons également qu'au moins 50 km soient asphaltés par le gouvernement central. Et à côté de ces quelques projets, nous attendons également que le gouvernement central puisse construire un stade olympique. Parce qu'au stade actuel, la ville de Butembo n'a pas un stade officiel, comme pour dire que la jeunesse n'a pas encore de structure d'encadrement. Donc voilà autant des projets que nous attendons du gouvernement. Et nous avons transmis ce dossier au niveau de notre hiérarchie. Nous attendons que le gouvernement puisse s'impliquer parce que l'autorité locale a déjà fait ce qui est à son pouvoir pour mobiliser la population locale de manière à la faire participer à la gestion de la chose publique.
Et est-ce que jusque-là, monsieur le maire, on vous a donné des suites favorables au niveau du gouvernement?
Je n'ai pas suivi la question. Vous dites s'il est déjà pris contact avec le gouvernement?
Est-ce que jusque-là, le gouvernement vous a promis ne fût-ce que quelque chose? C'est ça en fait ma question.
Oui, vous savez, nous avons une hiérarchie. Je ne peux pas directement m'adresser au gouvernement. Mon chef hiérarchique, c'est le gouverneur des provinces. C'est lui qui reçoit tous les projets que j'élabore au niveau de la ville de Butembo. Et c'est à lui de les transmettre à qui de droit. Mais cela n'empêche pas que, à mon niveau, je puisse intéresser également les parlementaires de cette région qui doivent tout faire pour faire passer ces projets au niveau du budget, par exemple, de manière à ce qu'une attention soit focalisée vers cette ville. Parce que Butembo, pour ceux qui ont déjà été ici, si le gouvernement prend en charge cette ville, elle va, j'estime, être, si pas la deuxième ville du pays, mais en tout cas la troisième ville du pays.
Qui sait, monsieur le maire, Julien Paluku, peut-être que demain, vous aurez des réactions de la part du gouvernement, ou pourquoi pas du gouverneur.
Oui, je disais donc tout ce que nous attendons, c'est dans ce cadre d'ailleurs que je vais vous remercier parce que je sais que beaucoup de gens nous suivent, que ce soit le, si c'est pas le gouverneur, mais au moins son précaré. Le gouvernement de transition a des gens qui nous suivent en ce moment. Vous comprenez que chacun doit pouvoir tirer le maximum de ce qu'il devra faire pour la ville de Butembo, de manière à ce que la population puisse ressentir qu'effectivement, toute l'autorité publique est mobilisée pour devoir appuyer l'action qui est en train de se faire au niveau de cette entité de la province Nord Kivu.
Merci beaucoup, M. Julien Paluku, vous qui êtes maire de la ville de Butembo. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous retrouvera peut-être, qui sait, peut-être demain au cours de nos prochaines émissions.
Je vous remercie.
Allez, au revoir. Voilà, c'est par ici que nous nous séparons. On se retrouve donc exactement demain, demain à la même heure.